bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. C'est les vacances ce soir pour beaucoup d'entre vous, en tout cas pour tous c'est quasiment le week-end. Que pouvons-nous amener dans notre valise pendant les vacances comme livre? Eh bien nous le saurons en deuxième partie d'émission avec les libraires indépendants du Lot. Mais dans un premier temps, on s'intéresse à la cellule archéologique du département du Lot. Pourquoi? Parce qu'on a fait de belles découvertes ces derniers temps. On aura l'occasion d'en rediscuter dans un prochain numéro du magazine. Mais là, d'abord, nous allons vraiment nous intéresser avec nos invités sur cette cellule archéologique et à quoi elle sert surtout. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Et on va s'intéresser à la cellule archéologique du département du Lot avec quelque chose qui est bien d'ailleurs entre parenthèses, c'est qu'il y a un nom dessus qui s'appelle archéologie préventive. Pourquoi? On va essayer de comprendre ça avec nos invités. Il s'agit de Caroline May qui est vice-présidente au département au niveau du département aux sciences du patrimoine et des archives, et puis de Étienne Lalot qui est responsable de la cellule archéologie dans le Lot. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Et bonjour Étienne.
Et bonjour.
Alors Caroline, en tant que vice-présidente, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle effectivement de la cellule archéologie? Parce que je parle de Cahors parce qu'on est à Cahors, mais en général dans le département il y a des superbes trésors sous nos pieds, on ne s'en rend même pas compte.
Oui, en effet, nous avons souhaité, le département du Lot a souhaité créer une cellule archéologique voici 10 ans déjà, parce que nous voulions faciliter les projets d'aménagement qui en nécessite une réactivité pour déceler s'il y a ou non un trésor caché avant tout aménagement.
Alors qu'est-ce que vous en faites de tous ces trésors?
Elles sont étudiées, ces trésors sont étudiés, un rapport est fait par nos équipes, effectué par nos équipes. Nous travaillons bien sûr avec le service régional de l'archéologie, avec l'État, et ils sont étudiés et si possible, bien sûr, l'idéal c'est que ce soit présenté dans des musées.
Et tous ces trésors, vous-même, vous êtes, intéressée, j'imagine, en tant que vice-présidente. Est-ce qu'il y a quel est le trésor, j'ai envie de dire, remarquable que l'on a trouvé, d'après vous, selon vous?
Alors oui, moi je suis très attachée, j'ai fait de l'archéologie toute ma vie et je suis professeure d'histoire, mais bon.
Ça tombe bien.
Oui, c'est pour ça que monsieur le président Rigal m'a confié cette mission. C'est sans doute le squelette mérovingien que nous avons trouvé cité Bessières voici 3 ans, je pense, que nos équipes ont trouvé et qui a fait la une des journaux en France entière, oui.
Cité Bessières, là où il y a effectivement le département du Lot qui est instauré?
Oui, lors des aménagements devant la cité, en effet.
Alors, ça veut dire que là où il y a notre studio de radio, il y avait ce squelette mérovingien. C'est assez impressionnant.
Oui, c'est ça, exactement.
Ouais. Alors du coup, Étienne Lalot qui est responsable, la question que l'on se pose, c'est comment vous êtes au courant s'il se passe quelque chose, enfin s'il y a quelque chose dans le sol? Est-ce qu'on est obligé de faire appel au département avant de bâtir quelque chose?
Alors l'archéologie que nous on pratique ici, c'est l'archéologie préventive. Elle se passe en plusieurs étapes. La première étape, en fait, si vous voulez, un aménageur, qu'il soit public ou privé, va envoyer un permis de construire à la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui va regarder le permis de construire en question et en fonction de la superficie et de la sensibilité de la zone géographique, va prescrire ce qu'on appelle un diagnostic archéologique. Alors un diagnostic archéologique, ce n'est pas une fouille à proprement parler. En fait, c'est plutôt destiné à comprendre la nature du sous-sol, à voir s'il y a des vestiges, quels sont les états des vestiges, etc. Donc dans ce cas-là, on intervient, on fait à peu près des tranchées sur 10% de la superficie de l'emprise où va y avoir l'aménagement. On rend un rapport à l'État après cela. Donc en fonction des vestiges et de la qualité du rapport, l'État peut prescrire une fouille ou, s'il n'y a pas de vestiges, va dire à l'aménageur, vous pouvez directement faire votre aménagement. S'il y a une fouille, l'aménageur va avoir, on va dire, 3 choix. Soit essayer d'adapter son aménagement pour qu'il impacte un minimum la nature des vestiges archéologiques, soit abandonner son projet, soit financer une fouille préventive. Auquel cas, il fera appel soit à la cellule archéologique du Lot, soit à l'Institut national de la recherche en archéologie préventive, ou l'INRAP, ou depuis 2003 à une structure privée. Voilà, donc là c'est un appel de projet, il faut poser un devis et l'aménageur fait son choix ensuite. Mais c'est le principe de destructeur-payeur.
Alors j'imagine qu'on ne rentre pas dans la même catégorie s'il faut fouiller un petit peu plus. Est-ce qu'on peut dire adieu à ces travaux finalement? Est-ce que l'État préempte le terrain en disant bah, « désolé, là il y en a pour un bon moment »
Alors l'État ne préempte pas. En fait, si vous voulez, l'aménageur a toujours le choix. C'est-à-dire que si financièrement il peut couvrir le coût d'une opération archéologique, aussi étendue soit-elle, il n'y a pas de problème, les archéologues vont intervenir, ils vont prélever toutes les informations du terrain et ensuite l'aménageur pourra réaliser son aménagement et donc faire les destructions. En revanche, s'il y a un bâtiment ou une découverte absolument extraordinaire, un amphithéâtre par exemple à Cahors, on peut aussi essayer de protéger ce vestige-là, l'insérer dans le projet d'aménagement, etc.
Est-ce que c'est pas un frein, par exemple, alors je ne sais pas qui de vous deux pourra me répondre, mais pour quelqu'un qui veut construire quelque chose et de se dire, mince, j'ai pas envie non plus que mon projet, alors je suis un promoteur par exemple, j'ai envie de construire quelque chose, est-ce que c'est pas un frein pour eux en se disant, mince, je risque d'être coincé, quoi. Caroline, mais qu'est-ce que vous en pensez ?
Vous posez là la question de l'importance du patrimoine. Le patrimoine, c'est un bien commun, donc tout un chacun doit être motivé pour le sauvegarder. Donc un frein non, grâce à notre cellule qui est particulièrement réactive, ça ne sera pas beaucoup de temps perdu que de faire ces recherches-là. Par exemple, tout à l'heure, Monsieur Lalot parlait de pouvoir aménager quand même, vous avez à la Chambre d'agriculture, des morceaux du rempart, non, d'amphithéâtre qui sont à la vue des visiteurs et donc qui ont pu être insérés au projet d'architecture de la maison d'agriculture. Donc voilà, le tout c'est de réfléchir intelligemment à plusieurs.
C'est un peu comme le parking d'ailleurs souterrain à côté sous les allées Fénelon. Comment on arrive à finalement, j'ai envie de dire, il y a un vestige, un amphithéâtre si mes souvenirs sont dedans et quand même le parking a été construit. C'est une sacrée négociation alors j'imagine.
C'est ça, oui. C'est tout un travail qui a été mené mais qui aujourd'hui du coup permet à la fois aux visiteurs de découvrir ces vestiges et au parking d'avoir été construit. Donc les solutions sont possibles, il faut travailler ensemble.
Oui.
Oui, bon, forcément en fait l'archéologie ça peut représenter un frein à l'aménagement mais de par la qualité du patrimoine qu'on va mettre au jour, mais ça évite aussi certains scandales. Si vous voulez, avant 2001 et la loi pour l'archéologie préventive, il y a eu énormément de scandales en France avec des destructions, notamment en centre urbain, de sites archéologiques absolument fantastiques. Et aujourd'hui, c'est absolument irrécupérable. Donc c'est un patrimoine qui a totalement disparu. Il y a eu l'affaire de Rodez qui a enclenché un petit peu, notamment cette loi patrimoine de 2001. Mais on a eu tout un tas de sites comme ça qui ont disparu de la connaissance de tout un chacun. Et c'est notre patrimoine à tous qui est à ce jour a complètement été anéanti. Quoi.
Combien de temps vous restez sur un endroit ?
Ça dépend de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la superficie du site, de son intérêt, du nombre de vestiges qu'on va mettre au jour et de l'épaisseur stratigraphique, hein, c'est-à-dire les niveaux d'occupation, de remblai, etc., qui se succèdent, toutes les couches de terrain en fait.
D'accord. Quels sont les prochains projets pour la cellule archéologique, Caroline May ? Est-ce qu'on se contente tout simplement d'attendre presque que les choses nous viennent, ou est-ce que la cellule peut se permettre aussi de dire tiens, je pense que là, si on regarde dans les archives, il peut y avoir quelque chose, on devrait y aller.
Donc, nous avons d'autres missions, cette cellule a d'autres missions. Déjà, c'est de porter à la connaissance de tous les Lotois et de tous les Français des richesses qu'elle a trouvées. Donc il y a tout un travail de médiation, un travail d'études, mais aussi de médiation qui sont menées avec des accueils de scolaires à qui on fait par exemple visiter les vestiges du Cahors gallo-romain, hein, pour vous donner cet exemple. Et là, on veut donner un accent supplémentaire à ces actions de médiation avec des cycles de colloques, de conférences et encore une fois d'expositions, de publications également, hein, à destination de tous. Ça, c'est un point très important de notre projet.
On se souvient d'ailleurs qu'il y a quelques semaines, vous étiez à l'espace Bessières, vous avez fait une superbe exposition qui a été appréciée aussi et un colloque. Qu'est-ce qu'on y apprend dans ces colloques ? Est-ce que c'est ouvert déjà à tout le monde ?
Oui, c'est ouvert à tous. Et pour moi, inciter les Lotois, les gens, à prêter attention à leur patrimoine, c'est leur faire connaître d'abord. Hein. Puis en tant qu'enseignante, je sais très bien qu'expliquer aux jeunes, notamment d'où, pourquoi tel vestige est là, quelle est leur histoire finalement, ça leur permet de s'ancrer dans la vie d'aujourd'hui et ça aide beaucoup à vivre. Et pour protéger ce patrimoine, c'est de notre responsabilité. Hein. Donc il faut faire connaître et c'est pour ça que nous allons développer toutes ces actions-là.
Où est-ce qu'on peut les voir, ces trésors-là, maintenant, actuellement, si on a envie de s'intéresser ?
Alors la plupart des trésors en fait nous appartiennent pas en propre, hein. Normalement ça appartient à l'État, également ça peut appartenir, c'est un petit peu compliqué, mais en partie au propriétaire du terrain, s'il a acquis le terrain avant 2016, enfin, tout ça c'est un petit peu complexe. Et alors on peut les voir, si vous voulez, en fait quasiment l'intégralité des collections que nous récoltons partent à l'étude, et derrière généralement elles sont entreposées pour des études ultérieures et surtout pour être protégées. On va dire qu'il y a peut-être un dixième des collections qui un jour est voué à être exposé encore.
Et qui est-ce qui les étudie ?
Alors c'est des spécialistes, hein. On a des spécialistes pour absolument tous les domaines, ça peut être la céramique, ça peut être l'étude de la faune, l'anthropologie, hein, tout ce qui est matériel et osseux humain, voilà, tout ça on a des spécialistes qui généralement un bac plus 5 minima et qui étudient ces collections-là, parce qu'évidemment on ne peut pas être spécialiste de tout, donc on délègue un peu également.
Mais c'est plus du ressort du département dans ce cas-là ?
En fait, le responsable de l'opération de diagnostic ou de fouille garde en fait la responsabilité de son opération jusqu'au bout. Donc c'est lui qui va diligenter des études auprès de prestataires ou de collègues. Et à la fin, c'est lui qui va assembler les études avec son rapport pour essayer de mettre tout ça en perspective.
C'est quoi votre rôle à vous en tant que responsable de cellule alors en fait dans tout ça ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à faire qu'il faut coordonner.
Alors mon rôle, je suis avant tout archéologue, donc il m'arrive d'intervenir également sur le terrain, encore heureux. Donc j'ai un rôle opérationnel, après j'ai un rôle on va dire un petit peu plus de manager, essayer de réaliser la programmation, savoir qui on envoie sur quelle opération, etc. Les recrutements et puis évidemment une grosse charge administrative, hein, comme il se doit.
Alors je suis un peu déçu, je vais vous le dire, j'arrive ici sur ce chantier, je suis un peu déçu. Moi j'ai encore l'image de l'archéologue de Jurassic Park, quoi. Le mec qui a 50-60 ans avec le gros chapeau de cow-boy presque. Et là je me retrouve avec quelqu'un qui est jeune, qui a une veste orangée, qui a une grosse pelleteuse pour creuser. C'est une image qu'on a de l'archéologie.
L'archéologie des anciens, ouais. Mais c'est dépassé tout ça. Oui. Maintenant, ce sont des jeunes. Là. Notre équipe est complètement renouvelée et très, très, très dynamique. Donc, ça renouvelle aussi le regard qu'il y a. Ils ont des méthodes, des idées. Ça dynamise la cellule. Donc, on est en pleine expansion. Là. On est en plein dynamisme, en tout cas.
Est-ce que ça encore, d'ailleurs, quand vous recevez des enfants, est-ce que ça fait encore rêver, ça, au final ?
Ah oui, beaucoup d'enfants veulent être archéologues.
Un peu y arriveront.
Oui, parce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde, mais ce n'est pas qu'ils n'y arriveraient pas à cause des compétences, mais c'est parce qu'il n'y a que très peu de postes. Hein. Mais ils peuvent faire de l'archéologie les étés dans des chantiers. Hein. Enfin, il faut avoir 18 ans, en principe. Hein. Mais bien sûr qu'ils peuvent en faire.
Alors, il faut faire quoi comme étude, Étienne, si on veut être archéologue, pour terminer ?
Bah, tout dépend de la spécialité, mais globalement, on est au moins sur un master d'archéologie. Après, il y a plusieurs masters en fonction de la période de spécialisation, etc. Et puis, ça peut aller jusqu'au doctorat, voire le post-doctorat. Donc, entre bac plus 5 et bac plus 8, on va dire.
Eh ben, je vous remercie. Caroline May, merci beaucoup. Merci Étienne Lalo. Étienne Lalo qu'on va retrouver dans un prochain reportage pour nous parler d'une fouille. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vous en saurez plus. Et bienvenue sur CFM pour le Mag avec les libraires indépendants du Lot qui vous proposent des idées de lecture pour ce week-end. Et oui, si vous ne savez pas quoi lire, et bien rendez-vous chez votre libraire. Mais pour lire quoi ? Voici les conseils de notre libraire à nous de la librairie Calligramme à Cahors. Et c'est Sandrine. Bonjour Sandrine.
Bonjour Yannick.
Alors, aujourd'hui, c'est très bien, si on c'est les vacances.
Exactement.
Donc on ne va pas charger avec un gros livre et on prend des livres de poche.
Tout à fait.
Le principe du livre de poche, ce sont des... Si j'ai bien compris, des livres qui ont bien fonctionné, que l'on met au format réduit.
Exactement. Et contrairement à une idée assez répandue, qui est fausse, le texte est intégral, hein, dans les livres de poche.
Pourquoi ? On pensait qu'on coupait...
Et ça m'est arrivé d'avoir quelques clients qui pensaient que le texte n'était pas intégral, en fait, par rapport au grand format.
Non, c'est jamais arrivé, il n'y a aucun...
Non, il n'y a pas de coupe. C'est le texte
d'accord.
Intégral. Ah, okay. Le papier est plus fin,
l'écriture plus petite.
Voilà,
bon.
Le texte est le même.
Alors, toi qui vas partir en vacances,
oui.
Qu'est-ce que tu vas amener dans ta valise au ski, s'il te plaît.
Ah, alors moi, je n'emmènerai pas ces deux livres, parce que je les ai déjà lus.
Ah.
Je vais emmener un peu de jeunesse et encore un peu de littérature. Mais il y a pas mal de choses qui sont sorties, notamment chez École des loisirs, là, pour les 9-13 et les 13 et plus. Donc, je vais lire, je pense, plutôt de la jeunesse.
D'accord.
Voilà.
Bon, alors du coup, qu'est-ce que tu conseilles à nos lecteurs, à nos auditeurs pour leurs vacances ?
Eh bien là, je leur conseille de la littérature.
D'accord.
Et je vous conseille deux poches. L'un, c'est un premier roman Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin.
Ouais.
Et qui vient de sortir en poche. Et le deuxième, c'est un deuxième roman de Britt Bennett qui s'appelle L'autre moitié de soi, qui est un page turner.
Alors on commence par lequel?
On commence par L'autre moitié de soi.
Alors L'autre moitié de soi. Oui, pardon. Oui, je confondais parce que là, il faudra que tu m'expliques après le prix des lecteurs. Là, c'est ce que je vois dans Laurent Petit-Mangin. Mais d'abord, L'autre moitié de soi de Britt Bennett.
Alors, L'autre moitié de soi de Britt Bennett, on est donc aux États-Unis. On est dans les années, je pense, 70, si mes souvenirs sont bons. Et on est dans un petit village qui s'appelle Mallard, où vivent des jumelles. L'une s'appelle Désirée et l'autre s'appelle Stella. Elles sont toutes les deux métisses, mais l'une d'elles est métisse avec la peau très blanche. Mmh. Et en fait, un jour, elles vont fuguer, parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans leur petit village de Mallard. Elles vont partir à la Nouvelle-Orléans et elles vont prendre un appartement toutes les deux. Et du jour au lendemain, Stella va quitter l'appartement sans dire à sa sœur Désirée où est-ce qu'elle se trouve. Désirée est perdue. Elle se demande pourquoi sa sœur est partie, quand est-ce que sa sœur va revenir. Et nous aussi, on se pose toutes ces questions-là. Et on va suivre la vie des deux personnages, des deux sœurs, en se demandant à quel moment elles vont se retrouver, si elles vont se retrouver. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas le lâcher. On a vraiment besoin de savoir quel va être leur destin. Stella, en fait, a la peau très blanche et elle va, en fait, décider de mener une vie de blanche. C'est quelque chose qui est assez, je ne vais pas dire fréquent, mais en tout cas, c'est un phénomène qui existe aux États-Unis dont je n'avais pas connaissance jusqu'à ce que ce livre paraisse.
Ça veut dire quoi, une vie de blanche pour
eux? Ben, ça veut dire qu'elles renient leurs origines.
Ah oui.
Elles changent de nom de famille, elles ne disent, et elles s'inventent une nouvelle vie. Et comme elles ont la peau assez pâle, elles peuvent se faire passer pour blanches et donc accéder à des postes différents, avoir une vie maritale différente. Et elles ont tout simplement conscience qu'elles vivent dans un pays où il vaut mieux avoir la peau claire que la peau foncée, tout simplement.
Oui.
Et c'est ce chemin-là qu'emprunte Stella, quitte à renier tous les gens avec qui elle a grandi et toute sa famille. Donc, quel est le prix à payer pour avoir cette tranquillité, mais pour ne plus souffrir de racisme.
Et puis dans les années 70, en plus, le racisme était très fort. Quoi.
Voilà, il l'est toujours aujourd'hui, mais vraiment, le roman est criant de vérité. Et la narration est très, très rythmée. Le fait qu'elle passe de la vie de Désirée à Stella régulièrement fait qu'on ne peut vraiment pas le lâcher. Et qu'on espère à chaque page un peu plus qu'elles vont se retrouver, on a plein d'espoir pour la vie de ces deux personnages. Après, je vous dis pas ce qui se passe.
Bah non,
sinon vous n'allez pas le lire.
Ah non. Donc du coup, ça s'appelle L'autre moitié de soi. Britt Bennett. Quelques mots.
Britt Bennett, c'est une autrice. Elle est américaine. Je crois qu'elle aussi, il me semble qu'elle est née au Nigeria, elle aussi. J'ai un doute.
Donc elle sait de quoi elle parle, quoi, presque.
Ouais. C'est son deuxième roman. Moi, j'avais lu le premier qui s'appelait Le cœur battant de nos mères, où elle parle avec beaucoup de justesse de la question de l'avortement dans les communautés, dans les familles qui sont très pratiquantes. Et là, c'est un deuxième roman vraiment réussi. Pour les lecteurs qui suivent, par exemple, Chimamanda Ngozi Adichie, on est vraiment dans cette veine d'écriture et de sujets sociologiques.
Et en plus, comme ça, si vous partez au ski, il va faire beau, vous avez votre petite terrasse ou balcon, il va faire beau, vous allez regarder, lire en même temps et prendre le soleil, c'est ça qui est bien.
Exactement.
Et ça, c'est aux éditions, par contre
Celui-ci, il est édité chez J'ai lu.
Chez J'ai lu, tout simplement. Deuxième livre, alors là il faut que tu m'expliques, c'est Laurent Petit-Mangin, Ce qu'il faut de nuit. Alors je vois le prix féminin des lycéens, mais il y a un prix, oulala, mais il est super récompensé ce livre au final, parce que prix féminin des lycéens, prix libre à nous, prix Stanislas,
oui.
Et puis le prix des lecteurs, c'est quoi, c'est des lecteurs du livre de poche?
Oui, en fait c'est un jury de lecteurs du livre de poche, et en fait lui il est dans le... Il a, Il a eu le prix des lecteurs. Il y avait une sélection de livres de poche et il a eu le prix.
Alors le roman doit être percutant parce qu'il n'a pas beaucoup de pages quand même, comparé à certains, par exemple à Brigitte Bennett. Donc pour que les lycéens et les lecteurs l'apprécient, ça doit être intense.
Alors c'est tout à fait le mot en fait, c'est vraiment un livre percutant. On suit un homme qui, suite au décès de sa femme, se retrouve seul à élever ses deux garçons. Qui sont en pleine adolescence. Et c'est le but de l'histoire, c'est de parler de ce qu'on transmet à nos enfants en termes de valeurs et du chemin que nos enfants vont prendre et le fait qu'on n'ait pas de prise sur tout. Ce qui est assez déroutant quand le chemin emprunté par les enfants est à l'opposé des valeurs qu'on leur a transmises, surtout dans le cas présent, puisqu'en fait, l'un des garçons va, alors que son père lui a transmis plutôt des valeurs de gauche, va faire des mauvaises rencontres et va se retrouver militant du Front National, en fait.
D'accord.
Et donc, la famille implose, forcément. Et on va suivre le destin de ces différents personnages. C'est un premier roman. Pour un premier roman, la plume est vraiment impeccable. Les mots sont pesés. Et je pense qu'on est des enfants ou pas, ça nous parle vraiment sur la question de la transmission. Parce que ça se passe dans une famille, mais ça peut être dans un groupe d'amis, le fait qu'on échange sur des sujets, qu'on est en phase, et puis un jour, l'un des amis prend une voix qui est tellement différente qu'on ne peut plus... l'amitié explose.
Ouais.
Quand les convictions politiques sont trop différentes et qu'il y a un problème de... tout simplement d'humanité, là, puisque c'est le cas, ça fait poser des questions. Donc, il y a une tension permanente. Il y a ce père qui fait tout pour son fils, mais qui justement commence aussi à ne plus trouver les solutions et ne plus trop savoir que faire pour alors le ramener sur le droit chemin, l'expression est justement très mal choisie, mais c'est comment on fait quand on est confronté à ce genre de situation. Rien n'est binaire dans ce roman et tout est réflexion, et c'est ce que j'ai trouvé passionnant.
Eh bien, il faut le lire. On va être franc, hein, si vous partez au ski cette semaine avec ce livre-là, prenez-en un autre, hein, parce que vous allez le lire rapidement. Si en plus il est percutant, je pense que tu as envie de finir. Tu vois le peu de nombre de pages, finalement, comparé à un roman normal, tu dis je vais y aller jusqu'au bout, quoi, et tu l'as fini le premier soir.
C'est ça.
Ouais.
Par contre,
vous régalez.
Tout à fait.
C'est vraiment
un immense coup de cœur.
Laurent Petit-Mangin, Ce qu'il faut de nuit, c'est aux éditions Livre de poche. Eh bien voilà, qu'est-ce qu'on te souhaite de bonnes vacances?
Oui, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'on est méchant. On y sera aussi, nous, au travail, t'inquiète, je te rassure. À bientôt en tout cas.
Merci, à bientôt.
Et avant de partir en week-end, pensez à venir prendre un petit moment pour donner votre sang, puisque les réserves sont en dessous du seuil qu'il faudrait, partout en France hein, d'ailleurs, pour soigner en toute sérénité. Sachez que la Maison du Don de Cahors vous accueille encore aujourd'hui de 14h à 18h, c'est au 34 rue Charles Boursol, et qu'en plus il y a des crêpes artisanales à déguster. Et puis autre point qu'il ne faut pas louper également, c'est l'ouverture de Parcoursup bientôt pour les jeunes, si ce n'est déjà fait. Eh bien, les centres sociaux de Cahors ainsi que l'info jeune du Grand Cahors vous proposent une information collective dans différents espaces sociaux de Terre Rouge sur le Parcoursup. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin qu'on vous accompagne, parce que ça peut être c'est quelque chose de nouveau, hein, forcément pour vous. Et puis on en parle tellement de ce Parcoursup qu'il y a peut-être des pièges à éviter. Eh bien, rendez-vous le mercredi 2 mars à l'espace social de Terre Rouge. Le lendemain à l'espace social de Sainte-Valérie et le surlendemain, donc le vendredi 4 mars, à l'espace social du Vieux-Cahors, de 9h à midi, avec un accompagnement possible sur rendez-vous auprès de l'espace social et citoyen. On aura l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir suivi ce magazine. Bonnes vacances si jamais vous devez partir au ski. Profitez-en bien. Et puis, bon week-end à tout le monde et une émission à réécouter tout à l'heure à 17h et à 21h30 en rediff et en podcast sur cfmradio.fr. Dans un instant, le journal.